ラジオオカピ
オカピオカピ service jeudi Daniel Kachama
オカピ
au Capri Service, nous sommes en direct de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani, sous vos applaudissements. Le maximum de bruit! Bienvenue à tous, merci à vous tous qui nous écoutez en ligne. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la cohabitation pacifique. Qu'est-ce qu'il faut pour promouvoir la cohabitation pacifique entre les communautés de la province de la Tchopo? On en parle avec nos invités. Nous avons en ces lieux le professeur Alphonse Maïndo, monsieur Alphonse Longongo et le professeur Jean Otemikongo Mandefou, qui est expert en résolution pacifique des conflits. Et merci à vous tous qui êtes là. Et merci à tous ceux qui nous suivent en ligne sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente condition d'écoute de cette deuxième tranche d'Okapi Service en direct de l'université de Kisangani. Sous vos applaudissements.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Alors, dans la province de la Tchopo, des affrontements interethniques entre la tribu Mbole et Longola ont été documentés, particulièrement dans la commune de Lubunga, au sud de la ville de Kisangani. Un problème des terres serait à l'origine de ces conflits qui ont causé beaucoup de morts et des dégâts matériels importants, selon nos sources. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre de manière pacifique les conflits interethniques? Qu'est-ce qui est à la base de cela? Et voilà, quelles sont les conséquences? Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Alors, nous commençons avec le professeur Jean Otemikongo Mandefou, qui est expert en résolution pacifique des conflits. Bonjour, professeur.
Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs de la grande radio Capi.
Bien, professeur, la première question est de savoir quelles sont les causes à la base de ces conflits entre ces deux communautés.
Bien avant de situer les causes, à mon humble avis, il faut d'abord situer le contexte général dans lequel se pose le conflit. Trois éléments du contexte me paraissent importants pour bien comprendre ce qu'on appelle conflit Mbole-Lingola. D'abord, il faudrait rappeler l'histoire de la ville de Kisangani. C'est une histoire faite d'un mélange de martyrs et de paix. Dans le passé plus ou moins lointain de cette ville, on a connu des événements dramatiques. Bien sûr, le conflit actuel n'a rien à voir avec les événements de rébellion des années 60, la guerre de 6 jours, ainsi de suite. Mais malgré ce contexte difficile, la ville a voulu changer de décor et devenir une ville de l'espoir. Ce que nous connaissons de la ville de Kisangani, c'est tout simplement déplorable. La ville de Kisangani est connue dans l'ensemble du pays et à travers le monde comme une ville de paix. Voilà pourquoi nous tous nous déplorons ce qui arrive entre les deux communautés qui ont pourtant longtemps cohabité dans la paix. Deuxième élément de contexte, me paraissent ce qu'on a dit tout à l'heure ici, la crise de la gouvernance. La gouvernance des affaires publiques. Le déclic de ce conflit me semble être lié aux actes des autorités publiques. Avant les élections dans cette ville, on a procédé à la mise en place dans ce qu'on appelle la petite territoriale, en nommant un bourgmestre dans ce qu'on appelait anciennement le secteur de Lubuyabera. Et l'autorité locale qui a été nommée n'était pas un autochtone et n'a pas été bien accueilli par la communauté. Il y a eu des réactions de ce qu'on peut appeler la base pour revendiquer sa participation à la gestion des affaires publiques. Toujours dans le cadre de la gouvernance, il faudrait aussi indiquer que ce qu'on observe actuellement, c'est lié au non-respect par les autorités publiques des textes relatifs à la décentralisation qui prévoient l'élection des autorités locales au lieu de la nomination comme on a fait dans un contexte électoral, préélectoral. Et deuxièmement, toutes les lois pertinentes que nous connaissons sur le secteur de la gestion de la terre consacrent bien sûr la souveraineté de l'État sur la gestion des ressources, sur la gestion de la terre. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ça, c'est le droit moderne. Mais ce droit moderne est démenti par les lois ou la coutume. Il y a des communautés locales qui revendiquent également leur droit à la gestion de l'espace où elles tirent l'essentiel de leur vie. C'est ce dualisme-là, à mon avis, qui semble être aussi à la base de ce que nous connaissons. Et toujours pour compléter ce décor, ce qui a mis le feu, ce qui a allumé le feu actuellement, c'est la signature par l'autorité provinciale d'un contrat de concession au profit d'une compagnie étrangère qu'on ne connaît pas dans les milieux, en violation des lois du pays qui demandent d'associer la communauté locale à la gestion de la chose commune. Voilà le décor, peut-être qu'on pourrait approfondir un peu plus après.
D'accord, professeur. On va donner la parole à M. Alphonse Longongo, qui est président du cadre des concertations de la société civile. Merci de lui passer le micro. Monsieur Alphonse, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
Alors, parlez-nous un peu de ces conflits, Lingola, Mbolé. Le professeur a épinglé quelques causes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres.
Oui, je félicite d'abord l'exposé que le professeur venait de faire parce que c'est vraiment objectif. Et dans ce contexte-là, je fais plutôt observer un questionnement. Est-ce qu'il y a-t-il un conflit entre les Mbolé et les Lingola? Parce que lorsque vous arrivez dans la cité, vous trouvez que les Mbolé et les Lingola cohabitent sans problème. Et vous savez aussi que ce conflit a généré beaucoup de déplacés internes qui sont hébergés dans des sites. Au sein de ces sites-là, les Mbolé et les Lingola cohabitent sans problème. Donc, en prenant compte de cette réalité, on peut douter, je doute, il n'y a pas de conflit entre les Mbolé et les Lingola.
Mais c'est
La réalité, c'est qu'il y a un conflit foncier, peut-être que dans l'évolution, peut se transformer en conflit entre les communautés. Tout est parti, effectivement, comme le professeur venait de vous dire, de toutes les causes, notamment le fait de la signature de ces actes par le gouverneur pour octroyer la terre à une société étrangère tout en ne respectant pas les lois de la République. Les communautés qui vivent de ces terres-là, on devrait réagir d'une manière ou d'une autre. Mais aussi la réflexion qu'il faut mener par rapport à cette situation-là fait que...
Mais moi, je ne comprends pas pourquoi l'attribution d'une concession à une compagnie étrangère doit opposer deux communautés.
C'est ce que j'ai dit. Les deux peuples n'ont pas de conflit. J'ai donné des preuves. Mais maintenant, le problème, c'est que quand il y a quelques délinquants dans une communauté, on ne peut pas salir l'ensemble de la communauté pour quelques délinquants qui sont instrumentalisés. Et c'est sur ce point-là qu'il faut retenir que dans ce qui se passe là, c'est effectivement ces actes-là de l'autorité qui a, oui, je peux dire, qui a engendré le conflit. Et vous allez même voir que d'autres éléments qui prouvent que les communautés n'ont pas de problème entre elles, c'est le fait, c'est-à-dire que c'est le mode opératoire des attaques qui se sont faites sur le terrain. Qui
avec des machettes, les armes blanches,
oui,
tout
les
ça.
Les façons de tuer que nous avons constaté est vraiment proche de ce qu'on constate par rapport dans les zones de l'Est où il y a des ADF et il y a d'autres
groupes. Par exemple.
Oui. Il est connu de tout le monde que les populations traditionnelles de la Tchopo sont hospitalières. Il n'y a jamais eu de problème de communauté ici chez nous et pas de problème de communauté entre les Mbole et les Lengola. Donc, c'est un conflit foncier. Il faut qu'on le traite sur base de cette considération vraiment foncière. Et comme je vous assure que les communautés de la Tchopo sont hospitalières, je crois que l'évolution ayant fait que on peut aller vers ces conflits-là de communautés, pas seulement entre les Mbole et les Lengola, parce qu'il y a ici d'autres communautés qui sont impliquées d'après les enquêtes. Et je crois que tellement que la situation ne s'est pas totalement aggravée, on peut encore réconcilier les communautés de la Tchopo, parce que la cause principale de ce conflit n'est pas communautaire, elle est foncière.
D'accord, merci. Professeur Alphonse Maïndo, comment analysez-vous cette affaire entre les Lengola et Mbole?
Pour moi, la cause principale de ce qu'on voit ici comme déflagration de conflits, d'affrontements entre les deux communautés, c'est le déficit d'État. C'est parce qu'il n'y a pas d'État que tout ceci se passe. Parce que tout est parti d'abord d'un problème entre deux individus comme ça qui se disputaient quelque chose là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces gens-là sont connus. On avait même arrêté certains de ces gens, mais l'autorité de l'État a elle-même demandé qu'on libère ces gens. Et donc, c'est parti comme ça, de représailles en représailles, et finalement, ça a pris de l'ampleur qu'on connaît. Donc, première chose importante, c'est ça. Si on avait commencé à mettre la main sur ces délinquants pour les mettre hors d'état de nuire, on n'aurait pas connu cette ampleur qu'on connaît. Après, maintenant, il y a d'instrumentalisation. Chaque délinquant va mobiliser les siens pour dire non, ce n'est pas mon problème à moi, c'est notre groupe entier qui est menacé. On mobilise l'identité maintenant pour défendre ces causes-là. Et donc, c'est ça qui fait ça. Alors, si vous regardez la question qu'on évoque ici de Cap-Congo, parce que c'est de Cap-Congo qu'il s'agit, Cap-Congo a signé une convention avec les chefs coutumiers Koumou, qui lui ont vendu. Il y a les titres pour ça, il y a les documents. Voyez-vous, donc ce n'est pas un secret, c'est connu de tout le monde. Il y a les documents que les chefs coutumiers de Lubuya Beira, donc qui sont des Koumou, qui ont vendu ça à Cap-Congo, plus de 4000 hectares de forêt. Maintenant, avec ces documents, Cap-Congo est allé auprès de l'autorité. C'est là qu'il y a maintenant violation des lois, puisque l'autorité provinciale ne devait pas signer de contrat de concession d'occupation en morcelant en plusieurs bouts une vingtaine de contrats pour rentrer dans les droits, parce que à partir de 4000, il n'y a que l'autorité nationale qui peut attribuer ce type de concession d'occupation. Mais il y a dans la loi agricole, c'est ce que moi j'avais dit déjà à l'autorité provinciale, il y a une disposition qui lui permettrait d'attribuer même jusqu'à 5000 hectares, plus que ça. Pourquoi? Dans la loi agricole, on dit que le gouverneur de province peut décréter une zone agricole, de priorité agricole. Et dans cette zone-là, l'autorité provinciale peut attribuer des concessions au-delà autour de 5000, jusqu'à 5000 hectares. Donc ça veut dire que le gouverneur de province aurait pu faire ça. Mais malheureusement, comme on dit ici, il n'y a pas de gens qui maîtrisent les textes ou qui ont les compétences pour conseiller l'autorité comme il se doit pour faire les choses dans les règles là. J'avais dit à l'autorité à ce moment-là, je lui avais dit, vous pouvez annuler ces actes, vous décrétez une zone agricole et alors vous faites la location et vous attribuez et ça devient légal. Mais on n'a pas voulu faire ça et du coup on se retrouve dans cette situation. Maintenant, il y a donc des gens qui profitent de ces conflits, qui en font donc un fonds de commerce pour pouvoir trouver des commissions, avoir des perdièmes de commissions, avoir ceci pour des frais pour aller faire des interventions là-bas. Et chacun y joue, ça devient maintenant une espèce de fonds de commerce. Et on veut une grande table ronde, on veut faire ceci, tout ça. Et donc il y a tout un tas, je le dirais, tout un business qui se crée autour de ce conflit-là. Et qui, malheureusement, on abandonne, on voit les victimes qui sont là, livrées à elles-mêmes. L'État ne fait pas ce qu'elle devrait faire. On abandonne les déplacés sont ici. Et ça va créer d'autres problèmes dans la ville ici, ça crée déjà. Tous ces jeunes gens-là et ces gens qui viennent ici, qui n'ont pas de travail, qui vivent à la belle étoile, quand ils vous voient avec un morceau de chikwang ou quoi, que font-ils? Ils vont vous envier, ils peuvent venir vous racketter, ou ils peuvent venir vous attaquer pour prendre ces éléments-là. Et c'est ça, la prostitution et autres. Donc il y a des vrais problèmes auxquels on devrait s'attacher. Mais ceci dit, je pense que, sincèrement, le conflit, je l'ai souvent dit, le conflit dans toute société est inévitable. Hein, le conflit, comme j'ai souvent cité ce proverbe Bambara, qui dit que le conflit est à la société, c'est une sauce à un bon plat. Donc vous ne pouvez pas avoir un plat, un bon plat, sans qu'il y ait une sauce. Donc vous ne pouvez pas avoir une société sans qu'il y ait des conflits. Mais c'est comment il faut doser. Si vous faites votre plat avec trop de sauce, ce n'est plus bon. Si vous faites votre plat avec pas de sauce, ce n'est pas bon. Donc il faut essayer de trouver le bon dosage pour gérer tout ça. Les conflits seront là. Et les conflits peuvent aussi faire évoluer la société. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui apprennent à gérer et qui apprennent à encadrer pour éviter qu'on ait des problèmes plus graves dans la société.
Merci professeur. Sous vos applaudissements, comment promouvoir la cohabitation pacifique entre les communautés? Y a-t-il déjà des questions dans la salle? Merci de faire signe et on va vous donner la parole. Okapi. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
On vous écoute, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la cohabitation pacifique?
Moi je m'appelle Lité Lamadi Serge, je suis étudiant à l'EFSAP.
Merci de rapprocher le micro de la bouche, voilà.
Ok, ma question s'adresse au professeur Otemi Kongo. Lorsqu'il a parlé de la cohabitation pacifique entre les Mbole et les Lingola, il a dit que les Mbole et les Lingola vivaient toujours en paix. Mais nous avons remarqué que depuis un moment, ils ne sont plus en paix. C'est-à-dire qu'il y a déjà une sorte de des ennemis qui sont déjà entre eux, qui leur donnent des mauvaises idées pour qu'ils se battent. Ma question est de savoir comment est-ce que lui, en étant un spécialiste, peut faire pour remédier à ces problèmes.
Merci. Le suivant, la cohabitation pacifique. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, c'est Didier Ndembe. Je pose la question au professeur Maindo. Nous avions suivi une délégation de l'Assemblée provinciale visiter l'entreprise Cap Congo et la délégation nous a dit que non, cette entreprise doit continuer, elle est dans, entre guillemets, dans la légalité. Est-ce que aujourd'hui, faudra-t-il laisser cette entreprise continuer à travailler, à œuvrer, ou bien faudra-t-il résilier ses contrats et dire à cet investisseur de partir? Merci.
Merci. Le suivant.
Merci. Bonjour. Beaucoup. Moi, c'est Olivier Olimbe de la radio communautaire Mwangaza. En tout cas, je suis d'abord très content suite à cette thématique où c'est bien notifié, cohabitation pacifique entre les communautés. Et voilà, en ce qui concerne les conflits entre les deux communautés, Lingola et Mbole, d'abord, je voulais vous dire que moi personnellement, j'ai été victime ou j'ai risqué ma vie juste pour dénoncer ce qui se passe à Lubunga. J'aimerais poser tout droit la question.
Vous avez été, vous avez attaqué, c'est ça?
Oui, j'ai été attaqué. On m'a envoyé même des gens à la station de la radio communautaire Mwangaza pour m'enlever parce que j'ai dénoncé ça à tout moment.
Ok.
Et je m'adresse plus particulièrement au professeur Maindo. Est-ce que tous ces contrats signés par l'autorité ou la gouverneure partante sont déjà annulés ou bien ça continue à démarrer? Merci.
Merci pour la question. Madame?
Merci. Professeur, vous m'avez enseigné
que les décisions politiques se préparent au niveau de l'administration. Quand on parle de ce conflit, quand on parle de contrat foncier, on ne voit que la signature de l'autorité. Ne pensez-vous pas qu'il y a des entreprises étatiques qui ont été impliquées aussi dans cette erreur? Parce que la loi foncière est claire. La loi foncière précise que nous avons des forêts communautaires. Et ces forêts communautaires, pour les céder, ça doit passer par une certaine procédure d'enquête, tout ça, pour voir si les communautés riveraines n'ont pas d'investissement là-dedans. Et nous apprenons que cette entreprise, il est en train de tout balayer. Il balaye les champs, il fait passer le bulldozer dans les champs, il
pousse. Est-ce que les chefs coutumiers étaient consultés?
C'est justement la question que je pose, parce que pour que l'autorité arrive à une telle décision, il faut que les services administratifs l'aient rassuré d'avoir respecté toute la procédure. Et puis, en tant qu'aumônière des hôpitaux, j'ai visité le site des déplacés. Et ils vous disent clairement, nous sommes ici, Mbole et Lengola et d'autres tribus encore, qui habitent la rive gauche. Cette histoire, ce n'est pas un conflit communautaire. Il y a autre chose qui se prépare. Pourquoi on ne le dit pas tout haut?
C'est quoi? Pourquoi alors, si ce n'est pas un conflit communautaire?
On dit que c'est une sorte de rébellion. Il y a une instrumentalisation de cet groupe des jeunes, tout ça, pour créer l'insécurité, tout ça. Et seulement, comme Kisangani, c'est une ville pacifique depuis tout le temps, on n'a pas pu obtenir ce qu'on a obtenu ailleurs, où les tueries continuaient, tout ça. C'est ainsi que ça a commencé à s'atténuer un tout petit peu. Voilà un peu la préoccupation.
Merci, madame. Au fond de la salle, Tati, au fond également de la salle, on va... D'accord. Bonjour, monsieur.
Bonjour, c'est Hérité Wamenga, ancien journaliste de la radio communautaire Mwangaza et présentement assistant à l'Université libre de Kisangani. Je voulais rappeler ici que la ville de Kisangani vit dans une situation de l'insécurité, non seulement pour le cas de conflit Mbole-Lengola, mais dans tous les sens, parlant de la délinquance juvénile et aussi le bandit armé du jour au lendemain qui inquiète la population. Voilà, je voulais poser la question au professeur Otemi Kongo qui m'avait enseigné le cours de droit administratif. Que prévoit la loi en cas d'abus du pouvoir sur la vente du domaine public ou privé de l'État? Et suivant l'un de l'invité, il a dit qu'il n'y a pas de conflit entre les communautés Mbole et Lengola. Ma question est de savoir à qui profitent les hostilités entre les deux communautés et que faire pour mettre fin définitivement à ce problème. Merci beaucoup.
Bien, merci pour toutes ces questions. On reviendra pour prendre une autre série de questions. Professeur Jean Otemi Kongo, vous avez la parole. Vite, rapidement le micro, Tati.
Je remercie les intervenants qui insistent sur les stratégies de règlement des conflits. Je pense que la question me paraît prématurée. Cette question aurait dû être posée par l'animateur pour rechercher les solutions à recommander aux autorités. Bon, puisque la question est là, on va tenter de raconter la préoccupation. Je remercie le militant de la société civile qui a très bien recadré les discours, les analyses sur ce qu'on appelle conflit intercommunautaire. Mais a dit la vérité, il n'y a pas conflit entre Lengola et Mbole. C'est un conflit qui est bien circonscrit, et comme l'a dit le prof Alphonse, et qui oppose quelques individus instrumentalisés par le pouvoir. À l'heure actuelle, on peut dire que l'ampleur du conflit est limitée à une échelle locale, même si on observe ce qu'on pourrait appeler alliance entre Lengola et Bakumu, ou bien alliance entre Mbole, Topoké, je ne sais pas, que viennent faire ces autres communautés dans ces conflits. Je crois que ce sont des manipulations abusives. Alors, pour revenir au fond de la question, que faire? Il n'y a pas une démarche unique. Et les conflits et la cohabitation communautaire se situent sur un continuum. On peut partir du conflit vers la paix, de la paix vers le conflit. Ce qui est important, à mon avis, c'est d'adopter une démarche rationnelle qui commencerait par les diagnostics du conflit. Il faut d'abord bien diagnostiquer le conflit. De quel conflit? Quelle est la nature de ce qu'on appelle ici conflit? On vient de le dire, en tout cas ce n'est pas un conflit intercommunautaire.
Alors il s'agit de quoi? D'une manipulation?
Oui, c'est une instrumentalisation. Parce que la thérapie, la solution à ce conflit, entre guillemets, dépend de la nature du conflit. Et on l'a bien dit qu'il s'agit d'un problème foncier. Et pour bien situer les propos, un problème foncier qui oppose les communautés locales à la administration publique qui a mal géré ce dossier. Entre l'Angola et Kumu, entre les Kumu et les Mbole, entre les Topoké et les Kumu, il n'y a pas de problème. C'est l'administration locale qui a opposé les communautés en prenant un acte irrégulier sans associer les représentants des communautés locales à toutes les étapes de la signature du contrat. Si le diagnostic est bien posé, il faut maintenant identifier les acteurs visibles et invisibles et connaître les raisons qui les poussent à manipuler les communautés locales et leurs stratégies.
Et est-ce qu'il y a déjà eu, par exemple, une table ronde où on a mis tous les représentants des différentes communautés ensemble pour discuter?
Oui, il y a eu des rencontres informelles, il y a eu des rencontres aussi officielles au niveau du gouvernement provincial, regroupant les acteurs. Bon, quels sont les résultats obtenus à l'issue de ces rencontres, puisqu'on a vu que malgré ces rencontres, le conflit a rebondi. Et jusque-là, le conflit n'est pas encore totalement tranché. Alors, à mon avis, la cause n'est pas encore totalement désespérée. Il faudrait commencer par un travail de pédagogie. Et comme l'a dit le prof Maïndo, si l'autorité locale souhaiterait signer un contrat avec telle ou telle autre entreprise, il faut préparer la communauté locale qui sera affectée par cette décision. L'associer à la décision pour obtenir son adhésion. Dans les cas contraires, ça va créer des résistances et les personnes qui se sentiraient lésées vont recourir aux moyens illégaux pour se protéger contre les vols de leur terre ou l'aliénation de leur terre par les autorités qui sont censées les protéger.
Mais professeur, on a appris qu'ici, c'est pas dans la culture des communautés ici de recourir à la machette. D'où ça vient?
C'est un mode opératoire qui nous surprend, nous tous. Ça nous surprend, on ne sait pas jusqu'ici qui est derrière tout cela.
Bien, monsieur. Alors, Alphonse.
Il y avait une deuxième question, si je peux répondre rapidement.
D'accord.
Que faire, étant donné que la décision piète un domaine public de l'État, Je crois que c'est aussi un problème de culture, comme vous le dites. Trop souvent, les gens ne savent pas que les actes des autorités administratives peuvent être attaqués en justice. Les arrêtés du gouverneur de province sont des actes administratifs. Lorsque ces arrêtés doivent respecter la loi, conformément au principe de la légalité. Faute pour une décision de l'autorité locale ou provinciale de respecter la loi, cette décision est susceptible d'être attaquée. Et pour le cas d'espèce, on peut l'attaquer devant la cour d'appel faisant office de la cour administrative d'appel et au premier degré. Et on peut aller jusqu'au second degré. Une telle décision peut être attaquée devant le Conseil d'État à Kinshasa.
Merci, professeur. Monsieur Alphonse Longongo, vous avez la parole. Vous êtes président du cadre de concertation de la société civile.
Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, derrière ce conflit, il y a l'instrumentalisation, il y a la manipulation. Et comme on a aussi constaté que les actes posés par l'autorité ont été illégaux, donc la responsabilité de l'État n'est plus à rechercher. C'est-à-dire que l'État en province, c'est-à-dire que les autorités qui nous ont gouvernés en 2022 et en 2023 sont citées parmi les auteurs intellectuels de ce qui se passe sur le terrain. Et sur base de ça, la question sur les bénéfices qui bénéficient de ces conflits-là, ces acteurs-là sont aussi parmi des gens qu'il faut reconnaître dans ces contextes-là. C'est ainsi que je félicite l'orientation donnée par le professeur Otemi Kong, où il faut faire un diagnostic et faire évoluer le processus pour la paix. Mais néanmoins, l'État qui est censé sécuriser les gens, l'État qui a la compétence d'assurer le droit à la vie aux individus, minimise cette question-là. Il y a eu certes quelques réunions qui se sont faites, mais l'État n'a pas encore pris la responsabilité d'organiser une enquête sérieuse pour qu'on sache avec qu'est-ce qui se passe concrètement. L'État n'a pas communiqué sérieusement pour dire qu'est-ce qu'il y a autour de cette question-là. Alors, au stade actuel, on peut se dire que il y a des initiatives que l'État a censé de prendre au niveau national. Et je crois que au niveau provincial, on est aussi dans la difficulté d'évoluer à cause de l'inaction de l'État. Et parfois parce qu'il est difficile de trouver des solutions avec ceux qui ont créé le problème.
Mais parce que le professeur Otemi Kong a dit qu'on peut attaquer la décision de l'État si elle respecte pas la loi.
Oui, effectivement, on peut attaquer la décision. N'oublie pas que c'est une tâche qui devient difficile. Ça devient un peu difficile. Pourquoi? Il faut d'abord définir qui va attaquer et avec quels moyens, connaissant les systèmes de fonctionnement de nos juridictions. Et vous savez l'État congolais tel que il évolue, et c'est parmi des choses, cette façon-là de faire fonctionner la justice pour nous est déjà un facteur de démotivation pour certaines personnes qui peuvent poser cette question. Je peux donner un exemple concret. Vous savez, la situation de Cap Congo ne se pose pas seulement en province de la Tchopo. Je crois dans une autre province à peu près Kouil, si je ne me trompe pas, la même chose s'est passée.
Dans quelle province?
Je crois que ça doit être ouvert le Kwilu. Le Cap Congo s'était aussi installé là. Et ce sont les députés nationaux de cette province-là qui ont pris la situation de leur province et ils sont allés voir les autorités au niveau national. Et il y a une lettre qui circule où le ministre a annulé au niveau national les certificats qui étaient faits pour Cap Congo dans cette province-là.
Ouais, et mais, pourquoi on n'annulerait pas aussi
Donc oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis en train de donner des exemples sur la base, c'est-à-dire qu'une façon aussi de sensibiliser des acteurs qui ont de l'influence, qui ont le pouvoir et aussi des moyens pour attaquer, je peux dire, les décisions qui sont faites à ce niveau-là. Je salue,
mais est-ce
par
que
exemple,
la société civile ne peut pas prendre l'initiative, prendre le lead?
L'initiative de la société civile est déjà prise. Il y a, avec Maître Bisseling, avant qu'il ne devienne politicien, il a déjà pris cette initiative, il a traduit la situation en justice. Mais vous savez, la justice coûte. La société civile, chez nous, a quel moyen pour aller en justice avec les gens qui instrumentalisent la justice? Il faut que la société civile accepte une responsabilité dont il a les moyens d'accomplir. C'est comme ça que, lorsque nous sommes en train de prendre le micro que vous nous tendez ici, nous sommes en train de sensibiliser aussi les gens pour qu'ils sachent que ça doit être une question de nous tous. Il ne faut pas qu'on indexe la société civile, il faut que chacun mette du sien à ce niveau-là, pas seulement la société civile comme organisation, mais aussi nous tous comme citoyens. Chaque citoyen peut apporter du sien pour que la situation évolue. Et pour terminer, je salue au niveau national, j'apprends qu'il y a des initiatives qui sont faites pour une table ronde ou bien quoi, un forum pour la paix en vue de cette situation-là. Oui, si c'est là.
Le forum sera à Kinshasa ou ici?
À Kisangani. Oui. Si c'est dans le sens de contribuer à la résolution du conflit, il faut le féliciter. Mais néanmoins, il y a des inquiétudes. Parce que, Dans un contexte de beaucoup de politisation de ce processus-là, on risquera de venir couvrir parfois des auteurs intellectuels de cette situation. Alors, c'est comme ça que on aimerait, par exemple, que au cours de ce forum-là, qu'on donne la parole à ceux qui sont impliqués dans ce conflit qui est créé au niveau de la Tchopo. J'ai dit par exemple ceux qui nous ont gérés en 2022 et en 2023, mais aussi qu'on laisse la parole aux communautés qui ont subi ces atrocités.
Mais est-ce qu'il faut vraiment absolument organiser un forum autour de ça, ou il faut tout simplement prendre les bonnes décisions?
Oui, ça dit que lorsque je parle, il faut prendre la bonne décision. La bonne décision. Mais aussi parce que on est en train d'imputer les Mbole et les Lingola d'un conflit.
D'accord. Mais professeur, au micro, on veut réagir.
Ça nécessiterait qu'ils échangent. Merci.
D'accord. Professeur.
J'ai un complément. Je crois que avant même de saisir la justice, l'autorité provinciale qui a pris la décision a l'obligation morale de retirer une telle décision qui a causé beaucoup de dégâts dans notre ville. Lorsqu'une autorité se rend compte que la décision prise est illégale, sans même qu'il y ait pression de la société civile, cette autorité peut retirer, rapporter sa décision. Et en deuxième lieu, si l'autorité auteur de la décision ne retirait pas sa décision, il y a des voies de recours administratifs. Saisir son supérieur, le ministre de l'Intérieur, pour l'enjoindre de retirer sa décision. Si les voies de recours internes sont épuisées, on peut maintenant aller en justice.
D'accord.
Je crois que ces initiatives-là, table ronde, ceci, cela, c'est bon. Mais deux choses nous tuent dans notre pays. L'ignorance de la loi et la peur. On a peur d'attaquer une décision de l'autorité administrative alors que le recours s'adresse non pas à la personne mais à l'acte. On peut demander à l'autorité de retirer sa décision lorsqu'elle est irrégulière. On peut attaquer l'acte pour demander sa cassation.
D'accord. Professeur Mayindo, vous avez la parole.
Bien, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que, contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup de gens parlent, mais personne n'a pris vraiment l'initiative d'attaquer les actes qui sont ici mis en cause. Il n'y en a pas. Même Maître Patient que vous avez cité là-bas, il n'a pas déposé de plainte. Il a fait une dénonciation dans le cadre de son organisation et il avait l'intention de faire un recours devant la Cour d'appel, mais on l'en a dissuadé par un certain nombre de gens que nous connaissons tous. Voilà. Donc il n'a pas fait ça. Et la société civile, y compris les premières victimes de cette décision, c'est-à-dire les communautés qui disent avoir été, si vous voulez, ignorées, tout ça. Personne n'a déposé une plainte, ni les Mbole, ni les Lingola. Personne n'a déposé une plainte. Mais je voudrais aussi, si vous voulez, souligner, la partie de la terre que Cap Congo a occupée n'appartient coutumièrement ni au Mbole, ni au Lingola. Ça appartient au Koum. Maintenant, lorsque les services, donc madame parle des services de l'État, lorsque les services de l'État devaient faire l'enquête des vacances des terres, ils auraient dû aller constater qu'il y a des gens qui font des champs à ces endroits-là. C'est là qu'on retrouve la présence de Mbole et de certains Lingola qui font des champs là-bas, qui faisaient des champs là-bas. Et donc, puisque ces gens faisaient des champs là-bas, donc ils ont un certain nombre de droits d'usage qui sont là-bas de facto, alors on devrait faire des espèces de compensation. Dans les rapports que les services devraient faire pour dire, voilà, il y a des gens qui occupent ces terres-là, même si ces gens n'ont pas de titre, il faudrait les faire évacuer, mais il faut les indemniser pour quelque chose. Si on avait fait cette procédure-là, il n'y aurait pas eu autant de mal tel qu'on connaît aujourd'hui. Alors, maintenant, je réitère encore, c'est que le gouverneur de province n'a pas qualité pour faire ce qui a été fait là-bas, en saucissonnant les arrêtés et en signant ces arrêtés les mêmes jours avec des numéros successifs. Même si on veut tricher, il y a moyen de tricher différemment. C'est-à-dire on pourrait mettre des numéros différents. Il y avait moyen de mettre des numéros différents et les étaler sur plusieurs jours. Comme ça, les gens pourraient dire non, il y avait un dossier qui est rentré tel jour, l'autre est rentré et puis ainsi de suite. Et donc, on ne verrait pas que c'est une tricherie, une fraude organisée. Maintenant, est-ce que le contrat court toujours? Oui, il n'y a pas eu d'annulation, donc les contrats sont toujours là. Maintenant, et je comprends quand je discute avec les notables et les autorités politiques, y compris les députés, pour ces autorités-là, Cap Congo, nous parlions tout à l'heure de l'emploi, Cap Congo est en train de faire des investissements qui créent des emplois. Il y a des gens qui travaillent là-bas comme ouvriers agricoles et tout ça, et que c'est comme c'est des cultures pérennes, c'est des palmiers à huile qu'on est en train de planter. À terme, ça va créer l'industrie pour transformer ces noix de palme en huile de palme, donc il y aurait de l'emploi. Et donc des recettes pour la province et des revenus pour les travailleurs qui seraient là-bas. Et donc pour eux, il y a là un atout économique. La province n'a pas déjà d'employeurs qui viennent ici, d'investisseurs. On en a un qui vient, on ne va pas les décourager à cause de ça. Et donc il y a cette dimension, si vous voulez, de considération en tant qu'autorité qui pèse dans la résiliation ou pas. Bon, moi j'ai répondu à ça, je dis mais oui, mais il y a moyen de régulariser cela. Et je l'ai dit ici, il y a la possibilité de faire une zone, d'annuler les actes et de faire une zone agricole et puis maintenant de faire des attributions par le gouverneur ou alors demander à Kinshasa. Or, demander à Kinshasa, ça posera énormément de procédures, c'est long et donc les gens ne veulent pas faire cette démarche-là au niveau de Kinshasa. Maintenant, est-ce que il faut résilier ces contrats ou il faut faire quoi?
Il faut l'attaquer en justice. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, je crois que les voies ont déjà ici été évoquées ici. Moi, j'allais justement dire qu'il y a trois solutions possibles à ces, et qui ne sont pas exclusives, mais qui peuvent être complémentaires. Il y a d'abord des voies de recours administratif. Voyez-vous, donc ils peuvent concerner, saisir l'autorité elle-même qui a signé l'acte en question, donc vous demandez au gouverneur des provinces de revenir sur sa décision. Et vous pouvez aussi faire autrement, vous pouvez demander à sa hiérarchie de faire casser cette décision-là. Et tout comme, maintenant, vous pouvez aussi, on peut aussi demander à l'autorité, là maintenant c'est une voie politique, on peut demander à l'autorité législative, en l'occurrence l'Assemblée provinciale, de faire pression pour demander au gouverneur de revenir à son acte, s'il n'y a pas ça, qu'il y ait une motion pour le faire tomber. Donc il y a des mécanismes qu'on pourrait utiliser pour ça. Alors, et il y a également ce qu'on devrait faire, parce qu'il y a entre-temps aussi des faits criminels et graves qui ont été posés, on ne peut pas passer ça comme ça. il faut qu'il y ait également des poursuites pour rendre la justice aux victimes. Tous ces gens qui sont déplacés, tous ces gens qui sont morts ou qui ont été blessés ou qui sont livrés à eux-mêmes, tous ces gens-là méritent justice et bien plus que la justice, méritent également réparation. Or, lorsqu'il y a violation des droits humains, et en l'occurrence c'est le cas, ici c'est parce que l'État a failli dans sa mission de protéger les citoyens contre la violence d'autrui, tout ça, donc il est responsable de ça. Et surtout qu'il y a eu aussi un acte de l'autorité publique. Donc il y a véritablement là les conditions réunies pour une violation des droits humains. De ce fait, l'auteur principal, lorsqu'il y a violation des droits humains, c'est l'État. Et donc c'est à l'État de faire des réparations pour ces victimes-là.
Et, donc, et les victimes sont estimées à combien? Est-ce qu'on a une idée globale des personnes?
Alors, il y a, pour ceux qui, les personnes qui sont déplacées, il y a plusieurs milliers, on parle de dizaines de milliers de gens qui sont déplacés. Et beaucoup sont dans la forêt aussi. Mais pour les morts, difficile de décompter les morts parce que beaucoup sont morts en forêt là-bas. Mais il y a eu déjà des premiers bilans où on parlait des centaines de morts. Tantôt on vous parle de 200, de 300, mais ou parfois même de 800. Ça dépend des sources et de quel côté on parle. Bon, donc, mais pour moi, le bilan des morts n'est pas le plus important. À partir du moment où il y a mort d'homme, une personne, c'est déjà trop. On ne doit pas accepter qu'il y ait une mort simplement. Donc, quel que soit le bilan. Alors maintenant, en ce qui concerne il faudrait qu'on arrive à faire, il y a donc cette solution là, mais il y a aussi une démarche. Même si au départ il n'y avait pas, si vous voulez, une dimension communautaire dans le conflit, mais le fait qu'il y a des gens qui ont mobilisé leur identité communautaire, mais il y a des gens qui se disent, nous les Mbols on a été victimes de ceci, nous les Koumou, nous les Lingols on a été victimes de ceci, il y a nécessité d'essayer de faire une démarche politique de pacification pour réconcilier les gens pour faire ça. Et donc c'est pour cela que lorsqu'on avait eu une table ronde à l'initiative du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme ici dernièrement, donc une des résolutions, puisqu'il y avait, moi j'étais le facilitateur de cet atelier, une des résolutions de deux communautés qui étaient présentes en plus de participants de la société civile et des administrations, une des résolutions c'était justement de faire une table ronde où les gens viendraient pour parler et chacun exprimerait et on ferait donc une réconciliation donc de tout ce monde-là pour trouver une paix durable. Mais je voudrais souligner ici, parce que souvent nous tombons dans la naïveté, l'être humain partout dans le monde, il est le même. Il a le potentiel du bien et du mal. Il a le potentiel de la barbarie la plus horrible et la plus absurde. Et ceux qui ont cru en l'homme ont vite fait de déchanter. Regardez ce que les Européens ont fait il n'y a pas longtemps. Regardez ce que les Russes et les Ukrainiens font maintenant. Regardez ce que les Israéliens sont en train de faire actuellement à Gaza et au Liban et au Yémen. Donc, et ici, dans cette même ville de Kisangani, ce qu'on a fait ici dans les années 60, on a éventré les femmes enceintes pour voir comment les enfants sont dans les seins de leur maman. Et ça,
c'est ça revient ici, encore maintenant.
C'est ici, ça a été fait ici dans cette ville de Kisangani. On a décapité les gens, on a mutilé. C'est pour ça que moi je dis, l'homme, quel qu'il soit, il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire il est pacifique ou il est sauvage. Chacun d'entre nous a l'animal qui veille en lui, qui sommeille en lui. Il suffit d'un petit quelques déclics et le pire arrive et le sauvage réapparaît et il fait des dégâts.
Merci professeur, sous vos applaudissements mesdames et messieurs, nous sommes à l'université de Kisangani, nous parlons de la cohabitation pacifique entre les communautés, des questions et préoccupations, on va vous donner la parole, on va recueillir la dernière série, trois dernières questions avant de terminer, il y a docteur, il y a madame de l'autre côté, Tati, et puis on prendra peut-être, monsieur ici, et puis on va clôturer.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Bien, docteur Sébastien, vous avez la parole.
Merci Jody. Professeur Jean Otomi Kongo, en matière de droit administratif, à qui revient la responsabilité pour la réparation, puisqu'il y a un risque sanglant, razzia même, occasionnant mort d'homme. est-ce que c'est l'État congolais ou alors la société Cap Congo a aussi une part de responsabilité dans cette affaire? Ma seconde question s'adresse au président Alphonse de la société civile. Vous estimez réellement qu'il n'y a pas conflit entre les Mbole et les Lingola? Moi, je ne pense pas. Peu importe, on essaie d'embellir la situation, mais lorsque les gens sont en train de s'entretuer avec des machettes, vous estimez qu'ils sont en train de vivre en paix? Je ne pense pas. Puisqu'il faut voir les degrés de traumatisme. Nous recevons des patients dans les hôpitaux, ce sont des traumatismes graves. Et le rôle de la société civile pour le cas d'espèce, c'est la recherche de la réparation. Nous avons vu les autorités venir de Kinshasa ici avec des milliers de dollars pour inaugurer le monument du génocide. Je voudrais savoir si le contexte de conflit Mbole-Lingola et a occasionné mort d'homme avec cette barbarie peut aussi être prise en compte dans le cadre des génocides. Et si jamais il faut réparer une réparation psychologique, pourquoi pas installer ces monuments à Lubunga où il y a eu des problèmes? Ma seconde question, pourquoi pas créer un centre de récupération sociale? Vous allez voir dans la ville de Kisangani, les enfants qui font la mendicité, les taux a augmenté, ils sont nombreux maintenant. Mais pourquoi on ne peut pas créer un centre social là-bas pour une prise en charge holistique sur le plan médical, mais aussi sur le plan psychologique? Merci.
Merci, docteur. Madame Fon, bonjour.
Bonjour, je suis Blanchard Abossali La Blanche, journaliste de la presse boyomaise et correspondante de la radio de la femme ici dans la Tchopo. Monsieur le professeur Otemi Kongo, est-ce que la situation de la province de la Tchopo, si on parle des conflits, ne serait pas due à la négligence des autorités compétentes? À titre d'exemple, moi je sais une mère responsable à la maison, quand on l'apprend que ta fille est en train de sortir avec un garçon dans les coins, la première des choses, elle va attaquer réellement le problème, demander, chercher à connaître pourquoi sa fille voit ces garçons. Mais une mère irresponsable doit attendre que ça arrive les cas de grossesse pour afficher son comportement ou son animalité. Ça ne serait pas la négligence des autorités, ça c'est un. Je demande à M. Alphonse Longongo, ça ne serait pas la manque d'intérêt des autorités au cri de la population? Monsieur le professeur Maindo, si on prend le cas de cette petite fille, Sophie, vous savez, il y a des personnes que quand on rencontre, même ta manière de penser, ta manière de voir les choses change. La petite fille de 8 ans, dont les bras ont été décapités, jusqu'à présent, elle continue de traîner là-bas au cas de Saint-Gabriel. Elle a rencontré même la première ministre de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi cette fille continue à rester là-bas? Il n'y aurait pas de moyens pour la lever d'abord là-bas, changer au moins sa manière de voir les choses, et trouver des solutions à cette fille? Et ma dernière préoccupation est de savoir, est-ce que la persistance du conflit Mbole-Lingola dans la province de la Tchopo ne serait pas une manière pour des autorités d'attirer les soins d'ISA intervenants, parce que c'est dans le cadre humanitaire, d'aide humanitaire, que nous savons que les provinces où il y a plus d'insécurité, ce sont des provinces où les moyens financiers circulent, où il y a de l'aide humanitaire. Ça ne serait pas un moyen pour nos autorités de se tirer plus, de se faire plus d'argent? Ce sont mes petites préoccupations. Merci.
Merci, madame. Et la dernière préoccupation. Bonjour, monsieur.
Bonjour. Je réponds au nom de Osongo Nicolas, étudiant de la faculté de lettres LMDSIC. En fait, vu les thèmes qui parlent de la cohabitation pacifique entre les communautés, j'aimerais juste savoir si c'est possible que deux communautés, l'une qui est riche et l'autre qui est pauvre, sont capables de cohabiter, sachant que depuis la nuit des temps, ni la Bible, ni le Coran n'a réussi à concilier les pauvres et les riches. Parce que normalement, quand il y a des communautés et l'autre est dominante, l'autre sera donc dominée. Comment des communautés qui vivent vraiment dans des sens opposés peuvent cohabiter?
Ok, l'une est riche et l'autre est pauvre.
Oui.
Mais depuis très longtemps, ils vivaient comme ça.
Non, j'ai dit ceci.
Oui.
Quand il y a des communautés, les pauvres et les riches,
Comment les pauvres et les riches peuvent cohabiter?
Oui, c'est ça.
Est-ce possible?
Une communauté pauvre et riche, est-ce que c'est possible de cohabiter?
D'accord. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces préoccupations. Tati, on ajoute peut-être une dernière, non? Voilà. On n'a plus de temps. Professeur Otemi Kongo, vous avez la parole.
Je n'ai pas le monopole de la réponse, mais je serai complété par les deux collègues. Les deux questions qui m'ont été adressées se complètent. Dans son premier volet, il était question de savoir quelle serait la responsabilité de l'administration de l'État dans les événements que nous déplorons aujourd'hui. Est-ce que la négligence ne pourrait-elle pas être retenue à charge de ces autorités? Objectivement, je ne dois pas me comporter comme un militant de la société civile. Je dois être objectif. Pour répondre à cette question, il faut honnêtement mener une enquête pour établir les responsabilités des uns et des autres. Plusieurs types d'enquêtes. L'enquête administrative. L'autorité administrative elle-même peut mener une enquête pour vérifier s'il n'y a pas eu négligence, s'il n'y a pas eu faute. Ce qu'on pourrait reprocher aux autorités ici, c'est un peu ce qu'on a appelé la négligence. Le fait de n'avoir pas pris des précautions pour informer suffisamment en amont les communautés concernées et puis les associer à la décision. Et même lorsque les conflits éclatent, il faudrait toujours continuer à faire appel à la même communauté pour construire ensemble une solution négociée au conflit. L'enquête peut être aussi une enquête de type judiciaire. Les instances judiciaires habilitées peuvent mener une enquête indépendante de celle des autorités et tirer des conclusions qui vont s'imposer. L'enquête peut être aussi une enquête indépendante, celle des organisations de la société civile, parallèlement à l'action de l'État. Mais le dernier mot, comme nous avons dit, va revenir à l'État qui pourrait prendre une décision à imposer à toutes les parties. Bien sûr, en faisant un effort de ne pas frustrer telle ou telle autre partie. Trouver des compromis aux problèmes qui semblent diviser les deux communautés. Alors, est-ce qu'il y a une négligence? Quelle est la responsabilité? La notion de la responsabilité suppose, signifie l'obligation pour l'auteur d'une faute ou d'une négligence de réparer les préjudices causés. Cette enquête ne t'a pas mené. Bon, il faudrait se comporter correctement et éviter de charger telle ou telle autre partie, mais les indices qui sont là indiquent que tout est parti de la décision de l'autorité administrative. Et sans aller dans les détails, c'est l'enquête qui pourrait déterminer s'il s'agit d'une faute administrative ou faute du service, ou bien s'il s'agit d'une faute personnelle de telle autorité qui serait corrompue, qui aurait été corrompue ou pas, ou bien s'il s'agit d'autres fautes, ou qu'on appelle aussi des fautes des services.
Merci, professeur. Monsieur Alphonse Longongo, on a parlé de la réparation, il y a eu le génocoste ici qui a été célébré. Est-ce qu'il y aura, il est prévu une réparation auprès des victimes?
Effectivement, il faut travailler pour qu'on aboutisse à avoir ces réparations-là. Je sais simplement qu'au niveau national, il a été mis en place le FONAREV qui prend en charge, je peux dire, certaines victimes des conflits ci et là. Et je crois que la célébration du génocoste avait aussi été prise en charge par le FONAREV. Et je me rappelle même qu'il y a quelques jours, il y a un procès qui a eu ici pour les trois personnes qu'on a tuées à 7 kilomètres. Fonarev était présent pour constater et voir ce qui peut être fait dans la suite.
On a évoqué le cas d'une petite fille. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport
donc,
à ça?
Par rapport à la situation de la petite fille telle qu'on a dit, et par rapport à beaucoup d'autres cas qu'il faut prendre en compte, tout le monde revient sur la responsabilité de l'État. Vous voyez, il y a beaucoup de cas, on se pose la question, pourquoi l'État laisse les choses aller comme ça? Il y a cette fille-là, il y a aussi le nombre de déplacés que nous voyons dans la ville, je crois que le professeur Maïndo en avait déjà évoqué. C'est-à-dire que sur ce plan-là, on constate que l'État reste encore inactif. Et c'est ça ce qui permet même de poser la question qui nous a animé un peu plus avant autour de la responsabilité de l'État et même de la responsabilité de l'État dans ce qui se passe. Est-ce que l'État, parce que comme nous l'avons dit, c'est l'État qui a signé des actes contraires à la loi qui ont provoqué, je peux dire, les affrontements. Et les conséquences, l'État ne prend pas encore l'avant-plat pour résoudre, je peux dire, ces conséquences-là telles que ça se pose dans notre société. Et à la fin de compte, c'est la conclusion que le professeur Otemukong vous venez de dire. C'est l'État qui doit prendre sa responsabilité pour décider qu'est-ce qui doit être fait pour que la paix revienne, mais qu'est-ce qui doit être fait pour prendre en charge les victimes qui sont là. Et je crois que à la fin de compte, c'est l'État aussi, par rapport, comme on avait dit, il y a des actes gravissimes qui doivent être jugés. C'est l'État qui doit sanctionner aussi les auteurs de ces situations-là. Et comme je l'ai dit au début, il n'y a pas un conflit entre les Mbole et les Longola. C'est un conflit foncier. Mais maintenant, c'est l'évolution de la situation. Et avec, l'implication des médias, on est en train de dire que c'est le conflit Mbole et Lingola. Nous avons dit que au début de ce conflit, c'est un problème foncier et il y a eu certains membres des communautés qui ont été instrumentalisés. Ils n'ont pas reçu le mandat des deux communautés. Ce sont des délégués qu'on pouvait, maîtriser pour que ça n'aille pas loin.
Donc c'est un conflit foncier qui prend d'autres tournures.
Oui, qui prend la tournure aujourd'hui, notamment avec l'effet des médias et tout ce que nous disons que c'est un conflit Mbole et Lingola, tout le monde gobe ça comme ça. Mais au-delà de Mbole et Lingola, il y a eu des morts qui ne sont pas Mbole et Lingola. Et c'est comme ça qu'on peut compter les morts sur plusieurs tribus ici. Et l'évolution va commencer à aller comme ça. Donc non, il y a eu autant de nombres de communautés qui s'ajoutent pour qu'on dise que mais on risquera d'oublier.
Merci Monsieur Alphonse. Oui. On va clôturer. On est arrivé à la fin. On va Professeur Maïndo va conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir les solutions? On parle en termes de solutions pour conclure, professeur.
Oui. Alors en termes de solutions, je pense qu'il y avait même dans les questions qui ont été posées, dans les commentaires que les collègues ont évoqués ici, hein, on a des solutions. Pour moi, la première solution, si on veut vraiment résoudre ces conflits, pour faciliter la cohabitation, c'est d'abord rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires nationaux. Et là, à Lubunga et dans les choses. Si on ne fait pas ça,
oui,
on ne peut pas avoir la suite. Et le rétablissement de l'autorité de l'État va aussi dans le sens de la justice. Parce qu'il y a des faits, comme je l'ai dit tantôt, qui sont des faits criminels. Ils ne doivent pas rester impunis. Il faut punir pour arrêter les cycles de violence. Et donc, si on fait ça, alors on peut arriver à trouver des solutions.
Merci, professeur. On a pris beaucoup de temps. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission au Capi Service en direct de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Sous vos applaudissements, nous disons merci à tous les intervenants. Merci au professeur Alphonse Maïndo, professeur Jean Otemikongo, merci. Et merci à monsieur Alphonse Longongo, président du cadre de concertation de la société civile. Et à vous tous qui avez participé à cette émission, coup de chapeau. Applaudissez pour vous-même. Merci à l'équipe de production, Clément Chimanga, Tati Mapoukou, Debs Vita, Gisèle Cage, André Kitenge et toute la grande équipe de Radio Okapi. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à la prochaine.